Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le débat du jour. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, l'accord nucléaire iranien est l'une des cibles préférées de Donald Trump. Il l'a notamment ciblé dans une violente diatribe lors de son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies au mois de septembre. Le président américain laisse planer le doute sur le devenir de cet accord. Il a d'ailleurs jusqu'au 15 octobre pour annoncer si le texte reste conforme selon lui à l'intérêt des États-Unis. L'accord nucléaire iranien est-il encore pertinent ou va-t-on vers un retour aux sanctions contre Téhéran? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Claudia Castiglioni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en histoire des relations internationales à l'Université des études de Milan et chargée de cours à Sciences Po Paris. Et vous êtes spécialiste des relations américano-iraniennes. Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonsoir.
Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste de l'Iran. Alors, comme on le disait au tout début de cette émission, l'horloge tourne. Donald Trump a jusqu'au 15 octobre pour certifier au Congrès américain que l'accord nucléaire iranien est conforme à l'intérêt des États-Unis. Il l'a déjà fait deux fois, mais là, il laisse entendre qu'il pourrait y avoir du changement. Pour bien comprendre, on va d'abord expliquer ce qu'est ce mécanisme, Claudia Castiglioni.
Oui, donc à l'époque de la signature de l'accord nucléaire, donc en juillet 2015, le Congrès a approuvé en loi selon laquelle l'administration au pouvoir doit confirmer l'accord tous les 90 jours. Donc la prochaine confirmation est attendue, comme vous disiez, le 15 octobre. Si l'administration ne confirme pas l'accord, le Congrès a à sa disposition une période de 60 jours pour approuver des nouvelles sanctions nucléaires contre l'Iran, ce qui conduira à la fin de l'accord de 2015. On sait que concernant le processus législatif, l'adoption de nouvelles sanctions peut bénéficier d'une procédure accélérée et qui fait que pour approuver la loi en question, il suffit d'une majorité simple. Ça, c'est une question très importante. Le parti républicain ayant la majorité de sièges au Sénat n'aura pas de problème s'il décide de procéder dans ces sens. Mais au-delà de détails techniques, le Congrès agira surtout en fonction de ce que M. Trump fera et de l'atmosphère politique.
C'est un message politique qui serait donné. Thierry Coville, est-ce que ça veut dire que Donald Trump pourrait chercher à affaiblir cet accord, mais pas le tuer complètement?
Ben, on ne sait pas grand-chose, mais il est clair que si vous voulez, s'il ne certifie pas l'accord, bon là il y a deux possibilités, ou le Congrès, donc si j'ai bien compris, remet en place les sanctions qui ont été annulées,
il peut le faire
lors de l'accord, au bout de 60 jours, et dans ce cas-là effectivement. C'est pas un affaiblissement, c'est que les États-Unis sortent de l'accord. Parce que le principe de l'accord, faut le rappeler, c'est simple, c'est que l'Iran revient à un programme nucléaire civil en échange d'une levée des sanctions. Si les sanctions du côté américain sont de nouveau appliquées, du côté américain. Donc la question qui se posera ensuite, c'est qu'est-ce que vont faire les Européens, les Russes, les Chinois? Mais disons là effectivement, déjà on peut dire que s'ils ne certifient pas l'accord, même s'il se passe rien, c'est quand même un coup de canif, tu voulais, sur le plan de la crédibilité des États-Unis, c'est quand même assez énorme. Alors là, s'ils vont jusqu'au bout, là, ce qu'on n'en est pas sûr, parce que il y a certaines personnes qui disent que ça peut être un show de Donald Trump, qui marquerait son opposition à l'accord et en même temps demanderait au Congrès de pas voter les sanctions. Mais enfin, on s'engage dans un processus compliqué. Ça remet en cause quand même, comme l'a dit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères iranien, la crédibilité des États-Unis. On veut pas faire de projection, mais je veux dire, ça paraît un peu bizarre de faire ça alors qu'ils sont quand même en négociation avec la Corée du Nord, etc. Donc là, ça, pour revenir à votre question, ça remet pas en cause l'accord s'il certifie pas, mais disons, on rentre dans une période d'incertitude, c'est très clair.
Oui, Claudia Castiglioni.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que pour Donald Trump, l'Iran est devenu un peu le dossier sur lequel ils vont montrer au monde, ils vont montrer au Congrès, ils vont montrer aux électeurs qu'il va mener un vrai changement dans sa politique étrangère. C'est arrivé déjà souvent que les présidents choisissent le Moyen-Orient comme terrain où montrer leur crédibilité. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus un dossier chaud, un dossier très délicat. De l'autre côté, il y a aussi des pressions des lobbies saoudiens, des lobbies israéliens qui se font de plus en plus fortes. Et c'est souvent souvent le cas quand on a un président qui n'a pas énormément d'expérience en politique étrangère. Donc, c'est un dossier où on trouve des pressions étrangères, des pressions provenant de la politique intérieure et aussi des pressions provenant des alliés américains aussi.
Alors, parce que l'AIEA explique que l'Iran, Thierry Coville, s'est conformé assez scrupuleusement à toutes les obligations qui sont dans cet accord nucléaire.
Ah oui, non, mais c'est, je veux dire, à la limite, tout le monde, à part Trump et une petite équipe, est d'accord sur le fait que l'Iran a appliqué l'accord, même pas scrupuleusement. Donc là, c'est encore plus étonnant, quoi, je veux dire. Donc l'AIEA, qui est chargée de vérifier si l'Iran applique l'accord, dit oui. Les Européens disent oui, les Chinois disent oui, les Russes disent oui. Les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères dit oui, le ministre de la Défense dit oui, le McMaster, le responsable du Conseil national de la sécurité, dit oui. Et Monsieur Trump... Alors, il faut chercher les raisons, là.
C'est un message... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un triple message ? Politique intérieure, vis-à-vis des alliés et vis-à-vis de l'Iran, peut-être aussi.
Oui, alors c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une stratégie. C'est un peu dans son style, c'est-à-dire que l'idée, c'est engager un bras de fer avec l'Iran. Mais alors là, bon, c'est toujours avec Trump, on voit bien l'idée, peut-être. Il veut engager un bras de fer avec l'Iran, donc... Sa façon de pas certifier l'accord, ce serait une façon de dire aux Iraniens, voilà, attention, avec moi, ça rigole plus, même les accords passés, on n'est pas comme sous Obama, moi, je serais, en gros, ils pensent qu'Obama a été trop gentil avec l'Iran, etc. Donc, c'est effectivement, le problème que je vois de manière assez pragmatique, c'est, ok, d'accord, mais c'est quoi l'alternative? Parce que s'engager avec un bras de fer comme l'Iran, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on lui rappelle, c'est pas nouveau du côté américain. L'Iran est
non,
à côté.
Ça fait quelques années.
Oui, ça veut dire c'est pas.
C'est 1979.
Voilà, les troupes iraniennes sont là sur le terrain à côté des troupes américaines en Irak, en Syrie. Donc l'accord, il a quand même. C'est une crise qui a duré pendant très longtemps. Donc je veux dire, est-ce que finalement, et puis si on remet en cause l'accord, est-ce que c'est la meilleure façon? Je pense qu'il sortir par le haut de cette crise pour lui serait un jour négocier avec l'Iran. Mais en Iran, vous avez des durs qui demandent que ça. Là, ce qu'ils entendent de Trump aujourd'hui, ils sont très contents. Donc ça va être très compliqué pour les modérés en Iran maintenant de dire on va négocier avec les Américains. Donc je sais pas si... Ok, il veut mettre une épreuve de force avec l'Iran, mais qu'est-ce qui va en ressortir là? Ça, on peut être un petit peu inquiet quand même.
Ouais, Claudia Castiglioni, en Iran, les conservateurs, les gardiens de la révolution sont assez contents de la tournure des choses. Oui.
Mais tout à fait, c'est aussi ça le problème. Il y a toujours un dialogue qui se passe en dehors de la table des négociations. C'est un dialogue qui se passe entre les opposants en Iran du président Rouhani et les opposants aux États-Unis, deux présidents, à l'époque c'était Obama, maintenant c'est Trump. Donc il y a deux pleins de dialogues qui sont très importants au même temps. Et effectivement, si Donald Trump...
Il y a quelque chose de public, puis il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans la coulisse.
Oui, voilà. Toujours. Mmh. Sans rentrer dans le débat sur la structure politique iranienne, il ne faut pas oublier, on est face à un acteur international très compliqué, avec caractérisé par des dynamiques très, très particulières. On a un guide suprême qui a effectivement le pouvoir décisif pour tout ce qui est politique étrangère, mais en même temps un président qui peut jouer un rôle important. C'est ce qui s'est passé avec Rouhani à partir de son élection en 2013. Donc, il faut jamais oublier que chaque fois qu'un président américain, c'est le cas de Trump à ce moment, mais c'était le cas d'Obama pendant son mandat, chaque fois qu'un président américain lance un message aussi fort, négatif ou positif, au régime iranien, il y a une réponse autant forte qui peut arriver de Téhéran.
Oui, parce qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, Thierry Coville, l'Iran a vivement répondu au discours très offensif, voire agressif de Donald Trump. Hassan Rouhani lui a dit attention, vous allez peut-être un peu trop loin.
Oui, mais si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que Rouhani,
il devait donner des gages
voilà,
aux conservateurs.
Voilà, si vous voulez, c'est un très clairement, on sait qu'à part principe, c'est un modéré. Alors, il y a des gens qui vont dire ouais, mais modéré, ça veut dire en Iran. Non, mais clairement, en Iran, vous avez des radicaux qui sont anti-américains, anti-Israël, qui veulent pas négocier, qui veulent s'imposer par la force dans la région, etc. Vous avez quand même le camp de Rouhani, c'est plus la diplomatie. Il l'a prouvé avec l'accord sur le nucléaire. L'Iran a fait des concessions. Donc, il est un peu quand même mal à l'aise parce que toute sa crédibilité politique en Iran, c'est cet accord. Donc là, et on voit très bien le débat en Iran, il y a ceux qui disent, maintenant il faut pas commettre d'erreurs, il faut pas qu'on donne des arguments aux États-Unis, il faut qu'on continue sur cette ligne de cet accord, donc on va dire c'est le camp modéré. Puis il y a ceux qui tirent à boulet rouge sur Rouhani en lui disant, mais vous faites rouler dans la farine, vous avez dit depuis le début, on peut pas avoir confiance aux Américains. Bon, là, si vous voulez chercher une preuve de plus, vous l'avez. Donc, il est un peu coincé et vous avez tout à fait raison. Il faut voir dans ses réactions. Déjà, l'Iran est un peuple très, très nationaliste. On plaisante pas avec l'honneur iranien. Donc, honnêtement, d'ailleurs, il n'y a pas que l'Iran.
Susceptible, même.
Oui, mais enfin, là, si vous voulez, mettez-vous à la place de l'Iran.
Bien sûr, absolument.
Ils ont négocié pendant 2 ans cet accord. Ils ont fait des concessions. Un nouveau président aux États-Unis qui dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cet accord? Je le remets en cause. Donc, en plus, c'est l'Iran, un vieux pays, etc. Oui. Bon, il a effectivement des comptes à rendre en interne. C'est tout à fait logique qu'il ait eu cette réaction aux Nations Unies.
Et pour des raisons de politique intérieure, on a l'impression que Donald Trump veut montrer qu'il fait tout le contraire de ce qu'a fait Barack Obama. Il a un complexe d'infériorité.
Là, il y a une rhétorique de très agressive, vraiment vers l'administration précédente, qui est fait sûrement partie des raisons pour lesquelles Trump est en train d'amener ce type d'attaque. Il a accusé, comme disait tout à l'heure, l'administration Trump de gentillesse, de faiblesse vers l'Iran. Moi, je trouve que c'est plutôt une attaque vers le pragmatisme d'Obama, parce que en fait ce qu'il envisage faire, c'est dont il parle depuis sa campagne électorale, c'est d'un retour à America First, l'Amérique d'abord, d'un retour à l'idéologie américaine. Moi, je crois que ça ne sera pas le cas, parce que chaque fois qu'un président essaie de remettre sa politique étrangère sur le plan de l'idéologie, il se trouve face aux rigidités structurelles, à la réalité. La réalité des alliés, la réalité du Congrès, qui même aujourd'hui, même avec les républicains, avec la majorité dans le Sénat, plusieurs républicains se sont déjà prononcés contre cette ligne de politique de Trump. Donc c'est pas du tout gagné, c'est pas du tout donné. Et c'est pour ça que je dis, idéologie c'est bien, mais après il faut voir la réalité.
Thierry Coville.
Mais je pense qu'avec Trump, je suis pas du tout un spécialiste en Trumpologie.
Qui veut se prendre?
Oui, voilà. Non, mais je pense il y a l'idée de. C'est un peu bon. Si je écoute ce qu'on est. En termes de négociation, si l'idée c'est de négocier avec l'Iran. En gros, on renverse la table, on met un peu de brouillard un peu partout, on donne des paroles fortes, on remet tout à plat, puis l'idée c'est de se retrouver un jour face à face, on va dire comme dans l'immobilier, et puis voilà, je te donne ça, tu me donnes ça, mais là, si vous voulez, remettre.
Il y a presque cette dimension d'ailleurs, je suis un bon négociateur, je vais vous le montrer.
Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Mais alors là, si vous voulez, c'est quand même l'accord sur le nucléaire iranien, comme on l'a répété, on a mis, 20 ans, moi je me rappelle, on en parlait début des années 90 en Iran, quand j'y étais, donc ça fait un moment que ça traîne, c'est 2 ans de négociation. L'Iran a fait des concessions qui ont été très dures à faire accepter, même Khamenei les a acceptées, mais je pense que c'était pas évident pour lui. Et là, si vous voulez, l'idée qu'on entend parfois, on se dit, est-ce qu'ils connaissent l'Iran ou pas? Les Iraniens renégocieront jamais. C'est-à-dire, si jamais les Américains pensent que, ok, allez, on va renégocier comme le climat, des trucs, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas connaître l'Iran. Si les Iraniens renégocient, moi, il faut que je change de pays, j'étudie un autre pays, parce que c'est pas l'Iran que je connais. Donc, l'idée que, c'est pour ça qu'on voit pas trop, vous avez tout à fait raison, réalistiquement, c'est quoi l'alternative? C'est pour ça qu'on se dit, il y a peut-être beaucoup de bruit pour mettre en place une stratégie anti-iranienne, mais bon, ce qui est pas évident aussi, parce que quelle va être la réaction de l'Iran s'il met, par exemple, effectivement, comme il en parle, les passes d'Aran comme organisation terroriste, qui sont quand même sur le terrain, à côté des Américains en Syrie, en Irak, est-ce que c'est la bonne stratégie pour engager un rapport de force? L'Iran, c'est un pays qui peut répondre, et chez les durs en Iran, il y a une volonté, comme ils l'ont fait dans le passé, il y a des gens qui disent qu'il faut répondre coup par coup aux Américains, donc c'est quand même ok de négocier, mais alors là c'est une stratégie qui me semble un petit peu dangereuse.
Alors quand vous dites les Américains aux côtés des passes d'Aran en Irak, on va dire qu'ils ont un ennemi commun.
Oui, mais voilà. Ils sont pas loin physiquement.
Absolument. Ouais. L'argument des faucons républicains, si on peut dire ça comme ça, c'est que l'accord ne garantit rien sur le programme nucléaire militaire iranien au-delà de 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, l'accord sera terminé et que les Iraniens pourront construire une bombe atomique.
Évidemment, ils étaient obligés de trouver une façon de présenter l'accord comme un mauvais accord. Et comme c'était pas un mauvais accord, ils ont eu du mal à en trouver. Ils ont dit c'est pas un accord qui va durer qui peut avoir dans la longue durée. C'est un accord qui est destiné à ne pas tenir dans la longue durée. C'est pas du tout le cas. C'est un accord évidemment fait dans plusieurs étapes. C'est un accord fait pour garantir certains résultats dans la longue durée. On peut pas on peut pas s'attendre à voir tout maintenant, parce que l'Iran aussi, on doit lui donner le temps de s'adapter au compromis qu'il a accepté. Mais c'est un accord qui est destiné à durer. Moi, je suis tout à fait convaincue sur ça. Et je suis sûre que pour les républicains, pour ceux qui opposent l'accord parmi les républicains, c'est une façon de trouver le petit défaut.
Chercher la petite bête, hein, exactement ça.
Tout à fait ça.
Alors, la position des Européens qui ont des intérêts économiques importants, il y a un an quand l'accord a été signé, il a été vendu beaucoup de voitures, beaucoup d'avions, de l'exploitation pétrolière aussi évidemment, puisque c'est ça la clé de l'accord, c'est que l'Iran puisse vendre du pétrole à l'extérieur. Est-ce que justement la partie iranienne, Thierry Coville, compte sur cette implication économique des Européens pour freiner le camp américain?
Ah oui, alors ce qu'on lit dans la presse iranienne, c'est que il y a aussi le sentiment que la situation est quand même très différente que sous Obama, c'est qu'il voit Trump comme très isolé dans le monde par rapport à sa politique anti-iranienne. Donc ce qu'on lit dans la presse iranienne, c'est que Trump est tout seul finalement, et que même si, alors les durs disent ne comptez pas sur les Européens, mais disons, bon, le sentiment quand même chez les modérés en Iran, c'est que voilà, faut pas s'inquiéter, faut pas s'affoler, les Russes, les Chinois, les Européens sont toujours pour l'accord. Donc si Rouhani arrive à gérer politiquement effectivement les attaques des durs, bon, moi, c'est vrai, clairement, faut toujours être prudent quand on fait des prévisions, mais on peut envisager des négociations, comme vous l'avez dit, notamment avec les Européens, qui ont de forts intérêts économiques en Iran, qui veulent préserver l'intérêt et qui sont capables de, ils l'ont déjà dit dans le passé, mais enfin, bon, j'espère que ça va revenir, de dire aux Américains, OK, vous remettez en place des sanctions, dans le cas où vous mettez en place des sanctions, mais ça concerne vos entreprises américaines. C'est pas l'extraterritorialité, on le reconnaît pas. Et donc, ils disent aux entreprises européennes, on protège les entreprises. On va voir, mais on a vu quand même une petite inflexion avec le président Macron qui a commencé à dire oui, on peut discuter du cas des missiles iraniens. Donc
oui, parce que pendant ce temps, les Iraniens continuent à faire des tests de missiles balistiques. Hein, voilà. Justement, le président Macron, qui a une pensée plus complexe que la nôtre, c'est bien connu, disait que il ne comprenait pas la stratégie américaine dans cette affaire. Il a dit ça vraiment est-ce que ça veut dire que c'est difficile à suivre? Est-ce qu'on a l'impression que le danger vient plus des États-Unis que de l'Iran, quoi, tout simplement? Claudia Castiglioni.
On peut bien dire ça. C'était j'ai trouvé drôle. Il y avait des déclarations faites par le président Rouhani où il disait, oui, il faut pas trop écouter Trump. Il vient d'arriver dans son
bureau,
dans son poste. Oui, il est encore dans une phase d'apprentissage. Il faut attendre un peu qu'il apprenne comment gérer ce dossier-là. Évidemment, c'est un peu une caricature, mais en même temps, c'est vrai que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour lui pour trouver vraiment des alternatives, s'il y a des alternatives. Et je crois que dans le temps, il va, comme tous les précédents, encore une fois, il va trouver une façon d'adapter un peu sa ligne.
Ouais, c'est pas pour, je veux pas défendre Trump non plus, mais je veux dire, autour de lui, vous avez des gens comme Matisse ou McMaster. C'est plutôt la façon de faire de Trump mais c'est vrai que, bon, de côté de Matisse McMaster, il y a l'idée que l'Iran est un adversaire régional. Alors, c'est leur vision, mais ils disent que l'Iran, voilà, intervient, en Irak, en Syrie, au Yémen, etc. Donc, la vision qui est, si vous voulez, et il y a l'idée que faut faire stop, à l'influence iranienne dans la région. Et puis, il y a également, je pense, ils ont toujours l'image de l'Iran, d'un Iran révolutionnaire. Si vous voulez, cette image existe notamment dans la population, donc c'est pas pour défendre, mais si vous voulez, par contre...
C'est vrai que les Iraniens, la révolution iranienne s'est beaucoup construite contre les Américains.
Voilà, en plus il y a anti-américanisme, etc. Mais c'est vrai que utiliser eux, par contre, ce qu'ils comprennent pas, ce qu'on peut pas comprendre, c'est pourquoi remettre en cause l'accord, qui est le début d'une négociation avec l'Iran. On peut avoir des tensions sur les missiles, etc., mais pas sur l'accord sur le nucléaire.
Claudia Castiglioni, il vous reste 20 secondes pour conclure.
Oui, en fait, 20 secondes. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus facile pour les Américains, pour les Républicains, de soutenir la ligne de Trump quand il parle de l'Iran comme la menace terroriste de Moyen-Orient, plutôt que l'accord. Et même Matisse, même Tillerson, quand il s'agit de parler de l'accord, ils sont finalement contraires à la ligne de Trump. Et ça, je crois, c'est la chose la plus importante à garder en tête.
Oui, absolument. James Matisse, qui est quand même censé être un général issu des Marines, qui effectivement trouve que c'est un bon accord. Il le dit devant devant le Congrès sous un témoignage. C'est quand même assez surprenant. Merci Claudia Castiglioni, merci Thierry Coville d'avoir participé à cette émission. Merci à Florence Ponce et Quentin Bresson. Bonjour chez vous. Bonjour.